Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct de Radio Campus Tour 99.5 FM et vous retrouvez l'émission qui traite de phénomènes sociaux et d'actualité. Et non, les glaneuses ne chôment pas, elles sont bien de retour pour toujours plus d'informations, de décryptage et de compréhension de l'actualité pour votre plus grand plaisir. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet que vous avez sans doute tous entendu parler, certes, mais dans les glaneuses, nous sommes dit pourquoi nous aussi on ne pourrait pas profiter de ce buzz, de cette actualité qui envahit les médias de nos jours. Vous l'aurez sans doute compris, chers auditeurs et auditrices, nous allons vous parler de la loi du travail. Et pour ce sujet, nous avons deux chroniqueurs de choc, que dis-je, de renommée. Nous accueillons ce soir le tout nouveau mais très prodigieux Virgile. Salut Virgile.
Salut, bonsoir à tous.
Tu vas bien ?
Ça va super, très en forme.
Bah nickel, de quoi tu vas nous parler ce soir ?
Ce soir, je vais vous parler des points clés de cette loi travail très très controversée.
D'accord, parfait, donc un peu plus nous éclairer sur le sujet. Bonsoir Marion.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Toujours aussi belle.
Merci Adé.
Bah oui. Tu vas bien ?
Bah oui, ça va très bien.
De quoi tu vas nous parler ce soir ?
Alors ce soir, je vais faire un petit panorama de tous les manifestants qui ont été manifestés pour ou contre, enfin contre cette loi travail.
D'accord, très bien. Donc... les glaneuses, c'est aussi des interviews, des débats, et pour celui-ci, nous n'avons pas un ni deux, mais bien trois invités que nous avons le plaisir d'accueillir tout autour de cette table. Nous recevons donc Monsieur Jean-Dominique Audebert, secrétaire de Force Ouvrière 37. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va, ça va très bien.
Parfait. Nous recevons également Monsieur Claude Paris, président du MEDEF Centre. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Oui, vous vouliez dire quelque chose ?
Bienvenue, non, pas du
Bienvenue,
tout.
Bienvenue, oui.
Ah, merci.
Merci à vous de vous être déplacé. Et nous recevons aussi ce soir M. Gilles Moindreau, secrétaire à la Fédération syndicale unitaire 37. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc après les présentations, un peu de contextualisation. Toi aussi, chers auditeurs, tu es perdu quand tu entends parler de la réforme de la loi du travail. Toi aussi, tu aimerais tout savoir sur les motivations de chacun, les manifestations, les actions coup de poing, les revendications, les discussions et j'en passe. Eh bien, cette émission est faite pour toi, chères auditrices et auditeurs. Alors le 17 février, c'est la catastrophe. Le projet de l'actuelle ministre du Travail, Madame El Khomri, est dévoilé. Il y a eu fuite. Le 18, c'est le Conseil d'État. Et dès le 19 février, on assiste à une vive contestation avec la pétition contre la loi du travail qui compte désormais plus de 1 200 000 signatures. Le 9 mars, c'est la première manifestation. Le 14, une deuxième version du projet est proposée aux différents syndicats qui divisent encore. Une manifestation a encore lieu, puis encore une, jusqu'à la 6e du 9 avril. L'entrée en vigueur de ce texte pour la loi du travail devrait avoir lieu dès 2019, si tout se suit correctement, mais pour le moment, des discussions sont toujours en cours et nous restons suspendus à ces dernières. Nous allons donc retrouver Virgile qui va nous expliquer les points clés de cette loi pour que nous comprenions un peu plus ensemble de quoi il retourne.
Exactement, une loi très controversée mais qui mérite d'être expliquée clairement parce qu'il y a aussi beaucoup, pas mal de bêtises quand même qui ont été dites sur ce projet de loi. Alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Elle a été modifiée plusieurs fois, donc je vais revenir sur la nouvelle version de la fameuse loi El Khomri, un texte de 130 pages, assez compliqué, hein. Donc je vais tenter de simplifier. Je vais vous dire un peu ce qui a été modifié et ce qui est resté dans cette loi. Alors déjà, le préambule hein, avec les principes essentiels du droit du travail rédigé par Badinter, ça a été supprimé, ça a été mis à la poubelle clairement. On trouve par la suite les conditions de l'astreinte. Alors ces conditions ont été modifiées dans la nouvelle loi. Actuellement, le salarié doit être prévenu de sa période d'astreinte au moins 15 jours à l'avance. La réécriture supprime ce délai de 15 jours et l'astreinte devra donner lieu à une compensation financière. Ensuite, donc le temps du travail quotidien, ça n'a pas été modifié. En revanche, le temps de travail hebdomadaire a changé puisqu'actuellement la durée du travail hebdo ne peut excéder les 44 heures sur une période de 12 semaines, alors que maintenant sur la même période, la durée du temps de travail par mois passe de 44 à 46 heures maximum. Ça change aussi pour les heures supplémentaires. Les accords de branche seront proposés par défaut pour privilégier les accords d'entreprise et le paiement des heures sup pourra se faire jusqu'à 3 ans après et non chaque semaine comme c'est le cas aujourd'hui. Alors ensuite, pour le forfait jour, il y a eu un petit rétro-pédalage, donc finalement pas de changement prévu dans la nouvelle version de la loi. Pour le travail de nuit, une petite modification a été apportée, hein, c'est-à-dire qu'un travailleur qui de nuit sera considéré comme tel s'il travaille entre 21h et 7h du matin, alors qu'avant c'était 21h-6h, donc voilà, petit changement. Ça ne bouge pas pour le temps partiel, les congés supplémentaires pour enfants à charge, ça ne bouge pas. La modification des congés par l'employeur, ça ne bouge pas non plus. Néanmoins, ça change pour les congés pour événements familiaux. C'est-à-dire qu'initialement, les jours de congés ne peuvent pas être négociés, alors que dans la réécriture, la loi prévoit un plancher maximal de 5 jours, mais autorise une négociation par accord de branche ou d'entreprise. Le congé de solidarité familiale ne change pas, le congé de proche aidant non plus. Pareil pour les congés exceptionnels. On continue avec le temps de travail maximal d'un apprenti. Il est fixé à 8 heures maximum dans le code du travail. La nouvelle loi voulait aller jusqu'à 10 heures, mais ça n'a pas été possible. Hein. Cette décision a été supprimée il y a quelques jours. Les négociations obligatoires et la publication des accords collectifs ne sont pas modifiées. Concernant la validation d'un référendum d'entreprise, il devait recueillir auparavant les signatures de syndicats représentant 30% des suffrages exprimés. Il en faudra maintenant 50% pour qu'un accord soit validé. Pour les effets d'accord emploi, ça bouge, hein, puisque la rémunération mensuelle ne pourra pas être diminuée. Mais en revanche, la rémunération horaire pourra être modifiée. Alors cela dit, le salaire mensuel, hein, devrait être le même, quoi qu'il arrive. La nouvelle loi travail s'attaque au compte personnel d'activité. Le nouveau texte prévoit le rassemblement des comptes formation et pénibilité. Le CPA sera donc ouvert maintenant aux indépendants, aux salariés et aux fonctionnaires, ainsi qu'aux retraités il y a quelques jours. Le gouvernement n'a pas touché au suivi médical du travailleur, ni à la contribution des travailleurs détachés. Et enfin, on va parler des indemnités de licenciement au prud'homme. La loi voulait installer un plafonnement pour ces indemnités, mais finalement, ça sera juste un barème indicatif que les prud'hommes pourront suivre ou pas, d'ailleurs. Et pour terminer, ça change pour la définition du licenciement économique. Ça a été modifié, hein, puisque la réforme précise cette définition de manière stricte à l'échelle de l'entreprise. Par rapport au projet original, le texte réécrit ajoute que les difficultés économiques créées artificiellement, je cite, à la seule fin de procéder à des suppressions d'emplois ne peuvent pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc ce fameux licenciement économique sera variable en fait selon la taille de l'entreprise. Et sans oublier bien sûr les dernières modifications qui ont été apportées il y a quelques jours seulement. Par exemple, la pause de 11 heures consécutives a été rétablie par les députés. Les salariés qui refuseraient un accord offensif feront l'objet d'un licenciement individuel pour motif économique et non plus pour motif personnel. Les modalités du droit à la déconnexion ont été avancées de 2017 au lieu de 2018. Et enfin, les députés ont donné des droits aux travailleurs utilisant des plateformes collaboratives. Donc voilà un texte qui a connu de nombreux changements avec pas mal de petits retours en arrière quand même de la part du gouvernement. Je rappelle qu'hier, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le déblocage de 500 millions d'euros pour les étudiants et la surtaxation des CDD. Donc je rappelle que cette loi, hein, bien sûr, la loi travail, la loi El Khomri, sera examinée à l'Assemblée entre le 3 et le 12 mai prochain.
Eh bien, merci Virgile pour cette analyse assez poussée de la loi qui nous éclaire un petit peu plus sur le sujet. Alors maintenant, on va retrouver Marion.
Oui,
quand elle aura mis son casque.
C'est bon.
Parfait. Donc à ton tour, Marion.
Alors, projet de loi travail, projet de loi El Khomri, loi El Khomri, loi travail, autant de noms pour qualifier le projet de réforme du Code du travail qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit depuis mi-février. 71% des Français s'y opposent. 9 mars, première grande journée de mobilisation nationale. 14 mars, recul du gouvernement et présentation par Manuel Valls de la version réécrite du projet. 31 mars, nouvelle grosse journée de manifestation. Porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, le projet vise à augmenter la flexibilité du travail en donnant plus de place à la négociation collective et en particulier aux accords d'entreprise. Oui, mais cette adaptation aux besoins de l'entreprise pour rendre l'économie certes plus compétitive pose problème. Adapter le travail à la demande, c'est somme toute pouvoir licencier, embaucher ou modifier les volumes de travail des salariés plus librement. Les syndicats de salariés accusent les employeurs d'être favorisés au détriment de leurs employés. Cette réforme, censée encourager l'embauche et donc réduire le chômage, va selon eux simplement mettre les salariés en difficulté et augmenter la précarité. Alors, ils manifestent aux côtés de l'UNEF, de la jeunesse, des salariés, des chômeurs, des retraités, en fait d'individus de la société française en désaccord avec le gouvernement. Et ils ont raison. Après tout, nous sommes dans une démocratie. Quand on tape « manifestation du travail » sur Google Images, on voit clairement qui mène le cortège. Les drapeaux rouges de la CGT et du FO flottent massivement. Ils ouvrent le bal, puis continuent de parsemer l'ensemble du défilé. Rien de surprenant jusque-là, puisque les syndicats de salariés sont les premiers acteurs concernés par la négociation collective. Ils sont à même de négocier les accords d'entreprise avec les employeurs et par là, les conditions de travail des salariés. Et lorsqu'on voit que ces conditions différencieront selon telle ou telle entreprise, on se pose la question de savoir s'il restera un code référentiel commun qui ordonnera les droits et les devoirs des employeurs et des employés. Et lorsqu'on voit surtout que les accords d'entreprise deviendront prioritaires aux accords de branche et à la loi générale, on se demande ce qu'ils contiendront et par qui ils seront réellement dictés et au profit de qui. Les syndicats salariés craignent la jungle, légitimement. La CGT et le FO demandent le retrait radical du projet de loi El Khomri. La CFDT n'y est plus défavorable après modification du gouvernement. Elle veut continuer à apporter ses corrections. CGT, FO, CFDT, ce sont en tout cas les noms de syndicats de salariés qui reviennent en boucle dans les médias. Sans omettre, côté syndicat toujours, le syndicat national de l'enseignement supérieur, donc le SNESUP. Et ce sont précisément ces personnes qui appellent... je me suis trompée.
Non, c'est juste que c'est dur à dire.
Voilà. Et ce sont précisément ces personnes qui appellent à manifester. Alors, qui les suit ? La jeunesse, de très très près. En tête de cortège, on retrouve par exemple le syndicat étudiant UNEF qui pointe du doigt un risque d'augmentation de la précarité. Précarité déjà palpable durant les études et durant l'insertion professionnelle. Mis à part ce risque, il reproche au projet les mêmes éléments que les syndicats de salariés, puisque demain, ils seront eux aussi concernés par cette réforme. Mais dans la foule, on croise de temps à autre des groupements d'étudiants, de lycéens et même de collégiens qui manifestent au-delà de la revendication initiale. À Paris, le 9 mars, Christophe, étudiant franco-allemand de 22 ans, manifestait parce que, je le cite, « Je suis de gauche, tout simplement. Ce que je reproche à Manuel Valls, c'est de ne plus rien avoir à faire au Parti Socialiste. » Toujours selon les propos recueillis par Europe 1, Crapahus, lui, a 21 ans, est manifesté aussi contre la déchéance de la nationalité, l'état d'urgence et, je le cite, « le virage peu démocratique du gouvernement ». Les Inroc, eux, publient le témoignage de Tessa, 14 ans, qui manifestait à Paris le 31 mars contre l'ensemble de la classe politique et en partie contre le gouvernement de François Hollande. Il est presque de droite. Du côté des jeunes, le 9 mars à Paris, on pouvait également voir les drapeaux des jeunes écologistes dénoncer un projet que même la droite n'avait pas osé. Le mouvement jeune socialiste, plus discret, a aussi manifesté le 9 mars contre un PS libéral. Sans oublier l'Union des étudiants communistes, qui manifeste depuis le début contre le projet de loi. Les mouvements politiques de gauche viennent appuyer ces manifestations. Le 9 mars, nombreuses personnalités de gauche étaient présentes à Paris. On note Christian Paul et Marie-Noël Liemen du PS, Olivier Besançon du NPA, Éric Coquerel et Daniel Simonet du PG, Julien Bayou du EECV, Clémentine Autain de Ensemble et Arlette Laguière de la Lutte Ouvrière. Alors, même si les jeunes et leur débordement ont beaucoup, beaucoup intéressé les médias pour la couverture des manifestations, les salariés étaient présents aussi, je vous assure. Même lorsqu'ils ne sont pas syndiqués, ils sont quand même les premiers touchés par ce projet. Leurs conditions risquent d'être revues pas forcément dans le bon sens. Alors, il y a ceux comme Thomas, intermittent du spectacle de 35 ans, qui manifestent aussi contre l'accord national interprofessionnel, la réforme des retraites, l'état d'urgence et le gouvernement socialiste en général. Mais il y a ceux qui, comme Laure ou Camille, centrent leurs revendications sur la loi El Khomri. Laure, 42 ans, est courtière en assurance et dénonce le plafonnement des indemnités prud'homales et l'allongement du temps de travail sans compensation de salaire. Camille, 40 ans, est cadre en recherche dans la cancérologie. Elle comprend la flexibilité du travail, mais elle est contre les implications qu'elle engendre. Elle dénonce l'importance donnée aux accords d'entreprise qui, selon elle, dirigent la loi vers les grands groupes et non les PME. Monica, 57 ans, animatrice sociale et syndiquée SUED Solidaire, manifestait elle le 31 mars à Paris contre une facette délicate et peu évoquée, le déclin du syndicalisme affaibli selon elle par ce projet. Elle dit qu'elle ne croit plus trop au syndicalisme, plus personne ne défend les salariés. Pour moi, les chefs syndicaux sont comme les députés qui ne vont pas à l'Assemblée nationale, ils ne jouent pas le rôle pour lequel ils ont été élus. Elle croit en revanche en un sursaut démocratique. Ce sursaut démocratique, ils sont nombreux à le rêver en manifestant. Bernard, informaticien de 60 ans, n'est plus vraiment concerné par la loi travail puisqu'il prend sa retraite dans un an. Mais pourtant, il est là, par solidarité avec la jeunesse, dit-il. Comme Myriam, chômeuse de 42 ans, qui manifeste un peu pour tout, mais aussi pour la loi El Khomri. Bernard est surtout là parce qu'il est contre le gouvernement de François Hollande et contre l'état policier. Il dit avec humour qu'il voterait bien FN pour qu'il y ait la révolution.
perdu tes notes.
Eh ben oui, donc je n'ai pas, voilà, j'ai pas la... Non, c'est bon. Donc je reviens, donc dernier individu à avoir été interrogé par les Inroc, Damien, 30 ans et chômeur, comme Myriam, manifestera lui aussi tant qu'il n'y aura pas de révolution. Ah, ça ira, et c'était justement le son que vous entendiez, mais qui a pas trop... marcher en fin de compte
finalement, mais bon voilà, c'est pas grave,
mais voilà,
c'était une idée de mise en scène quoi, à reprendre quoi,
voilà.
Donc on va faire une courte pause après ces deux chroniques pour que on puisse avoir le temps un petit peu de prendre du recul sur ce qu'on vient d'entendre. Donc on va tout de suite s'écouter Down in Mexico de The Coaster, que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être s'ils ont vu le cultissime Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. Vous êtes de retour parmi nous avec Les Glaneuses, toujours sur Radio Campus 99.5. Et nous parlons ce soir de la loi du travail, celle qui fait tant parler d'elle, qui fait couler autant d'encre et qu'il y a autant de discussions dessus d'ailleurs. Et nous allons commencer une première question. On va commencer avec vous, Monsieur Claude Paris. Donc déjà, cette loi est apparue comme une réforme. Donc selon vous, en fait, en premier lieu, pourquoi le ministère du Travail a-t-il voulu réformer les droits des travailleurs qu'on a actuellement?
Il a fait un constat simple, c'est que les entreprises, pour se développer, ont besoin d'y croire, d'avoir de la confiance. Et aujourd'hui, un des principaux moteurs de la non-confiance des entrepreneurs, c'est un code du travail très compliqué, qui les dissuade plutôt d'embaucher que d'embaucher. Donc, ils ont compris dans le gouvernement que le temps était maintenant... court pour réagir, car 5 millions de chômeurs, c'est pas normal, alors qu'une crise économique depuis presque 8 ans effectivement ébranle la plupart des pays européens. D'autres que nous ont fait des réformes, se sont relevés petit à petit, et chez nous c'est l'immobilisme. C'est-à-dire que si on ne touche pas à ce code du travail, on aura peut-être un scénario catastrophe qui sera une petite reprise économique, même peut-être un peu plus importante, peut-être, mais pas d'emploi. On risque d'avoir effectivement un rejet, peut-être, de l'entrepreneur contre les décisions qui lui ont fait croire et qui, du coup, lui font espérer une fin critique, me semble-t-il.
D'accord. Et cette non-confiance, justement, comment elle se traduit de la part des entrepreneurs ? Qu'est-ce qui leur fait comprendre, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont plus confiance en le code du travail actuel, justement ?
Oh ben, la plupart du temps, ce sont des remarques très simples hein, du trottoir. C'est je ne veux pas embaucher parce que je ne veux pas d'ennui. J'ai effectivement en face de moi des inspecteurs du travail. J'ai une réglementation prud'homale qui est extrêmement pénalisante pour l'employeur. Aujourd'hui, on signe un contrat de travail. On se met d'accord sur les indemnités, par exemple, de licenciement légal. Mais ce qu'on évoque là, dans la loi El Khomri, qui est une mesure sage, c'est de plafonner les indemnités supralégales. C'est-à-dire que celles qui sont décidées un jour par le juge, c'est la loterie. C'est-à-dire qu'une PME aujourd'hui peut se voir contrainte par la loi, enfin par le juge en tous les cas, pas par la loi, mais par le juge, de devoir verser une indemnité qui va effectivement mettre au chômage 15, 20 personnes peut-être, parce qu'il ne pourra pas servir cette indemnité. Donc la question, c'est le risque judiciaire qui devrait être encadré beaucoup mieux par la loi au stade du code du travail, au stade du contrat de travail. Quand on signe, on assure l'avenir à la fois pour le salarié et à la fois pour l'employeur.
Alors, j'ai vu que vous vouliez rebondir sur ce que disait Monsieur Claude Paris.
Ouais, je crois que vous exagérez un petit peu, parce que lorsqu'une entreprise ou un employeur fait l'objet d'une condamnation par un tribunal des prud'hommes, c'est parce qu'il a quelque part enfreint une loi, une réglementation. Et il est légitime pour nous, c'est presque un point de détail, mais c'est peut-être un peu symbolique de cette loi. Il est légitime pour nous que le juge puisse, comme c'est actuellement d'ailleurs dans un cadre, le juge ne fait pas n'importe quoi, mais que le juge puisse apprécier la peine, si vous voulez, qui est quelque part infligée. Parce que parfois, on ne fait pas exprès de faire une erreur, je pense, pour un employeur. Parfois, c'est un peu volontaire, on espère qu'avec les avocats, on va bien y arriver. Et donc, je crois que cette mesure, elle est un peu symbolique d'une loi, si elle a quand même rassemblé contre elle. Au-delà de ces 140 articles, en fait, plus d'un million de personnes qui ont signé, c'est parce que quelque part, je crois que les gens ne croient pas qu'on peut favoriser l'emploi en favorisant les licenciements. C'est pas possible et c'est pas entendable. On peut croire, alors, traverser la Manche, aller en Angleterre. On nous dit là-bas, il n'y a presque pas de chômage. Forcément, il y a un contrat de travail à 0 heure ou à 1 heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait qu'une heure dans sa semaine, si j'ai bien compris, peut être considéré comme salarié. Alors forcément, on relance l'emploi comme ça. Mais je crois que c'est pas ça l'emploi qui peut relancer. Moi, je pense, par exemple, à une entreprise de Saint-Pierre-des-Corps, Févelé. Ils fabriquent des portes de métro, ils les vendent en Chine, en Amérique du Sud. Ils ont des gens en fait qualifiés, qui ont fait des études, qui sont bien rémunérés et ils font de l'embauche. Et c'est un peu sur cette question d'investissement et de répondre aux besoins qu'on peut relancer l'emploi dans notre pays en faisant l'effort de la formation vis-à-vis des jeunes, l'effort de la qualification, plutôt qu'en retricotant le code du travail et en favorisant, j'ai envie de dire, l'employeur par rapport aux salariés. En étant un peu simple, mais je crois que c'est un peu le sens de cette loi. Et on voit bien, parce que le gouvernement, depuis le début, finalement, manœuvre en recul.
Oui,
mais je ne veux pas être trop long. C'est un peu l'impression générale que l'on a.
Nous, d'abord, je voulais remercier Radio Campus de nous avoir invités pour participer à ce débat et faire valoir le point de vue de la Confédération aux Forces Ouvrières. Nous, les choses qu'on a dites dès le départ de la promulgation de cette loi, c'est qu'elle était ni amendable ni négociable, pour la simple raison que le cœur de la réforme modifie au fond le code du travail avec le renversement de la hiérarchie des normes. Donc toutes les discussions qu'on peut avoir autour de, pour créer de l'emploi, les employeurs ont peur, ils ne veulent pas embaucher parce que le code du travail, il y a d'autres codes, il y a du code du commerce, on n'entend pas les employeurs se plaindre du code du commerce, ni d'autres codes. Donc là, le cœur de la réforme, c'est quoi ? c'est faire en sorte que l'accord d'entreprise prime sur tous les autres cadres collectifs, y compris le code du travail qui est au départ, qui est à la fois le socle des droits du salarié, sur lesquels s'édifient toutes les autres réglementations hein, de branches, de conventions collectives, et sur lesquelles les salariés qui ont un contrat de travail et l'employeur peuvent se référer, hein, c'est-à-dire c'est un cadre légal dans lequel va s'exercer va y avoir l'exercice du contrat de travail. C'est ça qui est. Et en fait, le fait que des accords d'entreprise puissent déroger au cadre collectif, ça veut dire, et on peut le comprendre très vite, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un accord dérogatoire qui sera signé dans une entreprise, ça veut dire que le cadre collectif initial, garant des droits des salariés, n'existera plus. Ce qui existera, c'est l'accord d'entreprise. Ça veut dire qu'on assiste finalement on assisterait finalement dans le temps, parce qu'évidemment les accords d'entreprise, ça se passe au rythme des activités économiques de l'entreprise, à une atomisation de ce code du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence au droit collectif. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui se passerait si toutefois le projet de loi El Khomri advenait. Donc c'est contre ça qu'on se bat, simplement contre ça. Le reste aujourd'hui, les reculades du gouvernement, les aménagements, tout un tas de... Il n'y avait pas besoin du projet de réforme du droit du travail pour avoir des discussions avec les étudiants aujourd'hui, avec les avancées qu'on connaît. Hein. Il n'y avait pas besoin de ça. Donc voilà.
D'accord. Bon, Marion, je crois que tu avais une question.
En fait, on a vu que le projet de loi voulait donner plus de place du coup à la négociation collective, en particulier aux accords dans l'entreprise, vous venez de le dire. Mais du coup, la négociation collective, elle est quand même menée d'un côté par les syndicats salariés, d'un côté par les syndicats d'employeurs. Alors finalement, pourquoi manifester contre un projet qui en fait donnerait plus de place à cette négociation entre les salariés et les employeurs ?
C'est pas plus de place, c'est moins de place. C'est-à-dire que... Oui, c'est moins de place.
Peut-être préciser qu'actuellement, un accord d'entreprise se fait dans le cadre de réglementation et notamment d'accords de branche et que les dispositions définies au niveau de négociation ne peuvent pas être défavorables aux salariés par rapport à l'accord de branche. Et là, c'est un certain nombre, au travers d'un certain nombre de dispositions que vous avez citées, on a par exemple sur le montant des heures supplémentaires ou autre chose, des choses qui peuvent être défavorables. Et on sait aussi que mettre en fait... Et je veux dire, à la FSU, à la Fédération syndicale unitaire, on compte un syndicat qui regroupe beaucoup de contrôleurs et d'inspecteurs du travail qui, je dirais, sont au quotidien avec les employeurs et les salariés pour faire que ça marche et que l'emploi soit préservé. Et ils sont très inquiets, c'est ce qu'ils nous ont dit en fait. Hein. C'est que le rapport de force, si vous voulez, une négociation, c'est quand même un peu rapport de force. Chacun défend son beefsteak. Et quand on est au niveau simplement de l'entreprise, le pouvoir qu'a quelque part l'employeur au sujet de l'emploi, justement, dans cette période, est très fort. Et donc, c'est ça, je crois, le risque, en fait, de déséquilibrer, en fait, cet équilibre qu'il doit y avoir, en fait, pour trouver un accord qui soit, quelque part, profitable aux salariés. Parce qu'on ne peut pas faire que la France, notre pays se développe, sa production se développe, sans que les conditions de vie des salariés s'améliorent également.
D'accord. Monsieur Claude Paris, vous voulez répondre ?
Bien sûr, on ne peut pas être du tout, au contraire, contre l'évolution des conditions de travail. C'est le cœur de métier de chacun d'entre nous, d'ailleurs, autour de cette table, n'est-ce pas ? On veut tous l'évolution positive des conditions de travail. Mais comment se passent aujourd'hui les négociations nationales ? Les accords collectifs, c'est... on est 5 autour de la table. Enfin, 8, excusez-moi. 3 patronales et 5 salariales. Les grandes centrales et les grands syndicats de patronaux se retrouvent de cette manière-là. Mais on constate aussi que dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, les minorités parfois sont bloquantes. Et quand on a des syndicats qui font leur travail, il faut les respecter, mais qui sont bloquants dans une décision qui favoriserait par exemple un accord offensif, c'est-à-dire de faire face à un accroissement d'activité, demander aux collaborateurs momentanément de travailler un petit peu plus contre rémunération, différer en heures supplémentaires peut-être, mais en tous les cas contre rémunération. Eh bien, il s'agit dans ce cas-là de faire en sorte qu'on ne bloque pas les décisions et qu'on puisse avoir des syndicats qui, si effectivement ils seraient minoritaire dans une entreprise, on puisse avoir un référendum qui élargit la cause à l'ensemble des collaborateurs. Chacun veut garder son boulot. Chacun veut effectivement voir sa boîte se développer. Chacun veut voir un employeur mieux rémunérer ses collaborateurs sans doute et aussi développer son entreprise qui à l'export, qui dans un marché aussi intérieur bien sûr, mais on veut tous que l'entreprise, la seule à pouvoir aujourd'hui employer, la TPE, PME de façon préférentielle aujourd'hui c'est vrai, plus que les grandes entreprises, on souhaite qu'elle puisse être sur un terreau favorable qui favorise un dialogue bien sûr dans l'entreprise et qui donne confiance aux uns et aux autres. Voilà, c'est pas de cadrer avec des syndicats localement qui peuvent aujourd'hui être en situation de minorité et ne pas finalement faire avancer dans le bon sens les décisions de l'entreprise.
Vous la voteriez, la loi, telle qu'elle est actuellement ?
On la voterait dans sa première version, quasiment, oui. Parce qu'on avait mis le doigt au MEDEF, mais depuis assez longtemps, hein, rapport Gallois, le rapport Gombrexel, sur cette loterie que constitue déjà la question des prud'hommes. Et là-dessus, la version qui plafonnait est effectivement une version qui correspondait déjà à une grande demande de chef d'entreprise.
Donc, telle qu'elle est actuellement, vous la voteriez pas ? Avec les modifications qui ont été apportées ?
On vient de découvrir ce matin qu'on allait taxer les CDD, donc effectivement, on continue à taxer, à appuyer sur le bouton facile de la taxe sur les entreprises.
Ouais.
Si ça se savait, si à force de taxer, on pouvait résoudre le chômage, depuis 40 ans, je pense qu'on serait effectivement dans une situation bien meilleure en termes d'emploi. Mais effectivement, on va encore aggraver, bien sûr, le coût du travail et faire en sorte que, non, ce CDD, c'est absolument pas une bonne solution. C'est de sécuriser, au contraire, l'emploi.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, pour le premier jet de la loi du travail, que vous l'auriez quasiment voté. Il y a des points que vous auriez pas, avec lesquels vous n'étiez pas d'accord avec le premier jet ?
Oui, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est d'augmenter encore une fois les délégations syndicales, notamment. C'est-à-dire de passer, je n'ai plus le chiffre précisément, mais une augmentation de 20%, n'est-ce pas ? De l'augmentation des heures de délégation.
Voilà. On n'y est pas encore.
Non, d'accord. Mais c'est dans le projet indiqué comme cela.
Ok.
Il n'y a pas besoin d'une refonte du code du travail non plus pour ça. Hein. Il n'y a pas besoin. Moi, je le dis parce que toutes les conversations qu'on a autour de, qui sont annexes presque, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une discussion dans les branches, y compris un accord national interprofessionnel pour discuter du CPA, heures de délégation, etc., etc. La question aujourd'hui, c'est la remise en question du socle du Code du travail, c'est-à-dire qui existe depuis 1910 en France, d'accord, qui est à la fois ce qui fonde le droit du travail, qui est donc le socle, et qui est en même temps le premier rempart. C'est ça qu'on vient interroger aujourd'hui. C'est à ça qu'on veut déroger. Donc c'est à l'accumulation de droits des salariés depuis 1910, à l'accumulation de ces droits-là, que le gouvernement veut attaquer. C'est, bon, en fait, il a repris toutes les revendications du MEDEF. Moi, je comprends que M. Paris vote la loi aux premières présentations de la loi El Khomri, puisque c'est toutes les revendications du MEDEF qui ont été... C'est un listage des revendications du MEDEF.
D'accord.
Moi, je voulais juste dire aussi encore quelque chose sur la taxe des CDD. Ça, c'est la précarité. Les CDD, c'est la précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises dans le département, on en connaît, qui tournent, qui fonctionnent, avec un nombre très très important de contrats à durée déterminée, des 20-30% de contrats à durée déterminée. C'est absolument anormal. Et aujourd'hui, on veut encore plus flexibiliser, soi-disant pour créer de l'emploi. C'est pas assez flexibilisé. Il y a... On a aussi le pacte de responsabilité. Est-ce que aujourd'hui, le fait que... le MEDEF appelle les charges, ce que nous on appelle le salaire différé. Est-ce que le fait que les employeurs payent moins de charges pour les nouvelles embauches de personnel, ça crée de l'emploi ? Moi j'ai pas vu ça. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'ont pris le gouvernement contre les intérêts des salariés, est-ce que ça crée de l'emploi aujourd'hui ? Le gouvernement il s'entête aujourd'hui. Dans cette voie-là, c'était dans une politique libérale de défaire les droits du salarié au prétexte de création d'emplois. Mais les résultats, ils ne sont pas là.
Ok. Je ne sais pas quoi répondre d'autre. Mais alors, on va revenir sur vous deux. Je vais vous poser une question à M. Gilles Moindreau et à M. Audebert. Alors, on l'a vu, donc, des points ont été retirés du texte, donc, comme la question des 44 ou 46 heures par semaine, ça s'est supprimé, ou alors du dispositif forfait jour. Ça a été modifié. Est-ce que, selon vous, ces mesures actuelles suffisent-elles ? Est-ce qu'il y a d'autres mesures, selon vous, qui sont à retravailler encore pour que ce texte arrive à un consensus entre les deux parties ?
Je crois que, d'une façon globale, le texte qui est présenté comme un texte en faveur de l'emploi ne le favorise pas, en fait.
Pourquoi ?
Il ne le favorise pas parce qu'il n'y a pas, pas de mesures, en fait, dedans. Au début, initialement, vous l'avez dit, M. Paris, le MEDEF l'aurait bien voté. Mais si on regarde bien la logique depuis quelques années, il y a eu une politique en fait économique qui a consisté. Il y a eu le pacte de solidarité, il y a eu le CICE, Crédit Emploi, qui a consisté à faire que des masses importantes financières de plusieurs dizaines de milliards quittent, par exemple, les collectivités territoriales ou d'autres publics, aillent à l'abaissement des charges jusqu'à, je crois, 3,5 fois le SMIC ou 2,5 fois le SMIC. Et à l'époque, il y avait eu un débat, je crois qu'il y avait eu un petit badge, un débat sur 1 million d'emplois. Ces mesures ont été prises au niveau financier avec cet abaissement du coût de travail et il n'y a pas eu finalement d'emploi. Il n'y a pas eu d'emploi de créer. Et ce bouleversement en fait, du code du travail qui est initié par cette loi, elle ne peut pas plus favoriser l'emploi. Or, je dirais que c'est un peu pour ça qu'en tant qu'organisation syndicale, on se bat parce qu'on pense aux jeunes qui sont dans les lycées, à l'université, aux gens qui sont dans les entreprises. Et on est sûr que ces mesures qui déséquilibrent en fait le rapport de force, alors on peut appeler ça le dialogue social ou le rapport de force ou les discussions dans une entreprise, le déséquilibre en défaveur des salariés, ça ne créera pas. Vous avez parlé d'accord offensif. En général, qu'est-ce que c'est l'accord offensif aujourd'hui ? C'est une baisse ou un maintien du salaire, mais de ratio salarial et allongement du temps de travail. En moyenne. C'est ça ce qui est proposé. Et au bout de quelques années, souvent, il y a quand même des licenciements. C'est présenté pour présenter l'emploi. Et en réalité, il y a des licenciements. Donc nous, cette logique, on voit bien que cette logique de loi, ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. Et le gouvernement l'a répondu. Parce que cette loi cristallise un peu toutes les angoisses de la société aussi sur l'emploi et les jeunes. Et c'est bien normal, finalement. Et tant mieux qu'on ait un débat précis possible, finalement, et avec des opinions différentes. C'est une bonne chose. Mais le gouvernement, par les dernières mesures, on en prend acte, nous, de faire qu'il y ait plus de jeunes, plus de salariés, plutôt, qui soient employés en CDI qu'en CDD. Parce qu'à l'évidence, je crois que c'est 80 ou 90% des emplois qui se font d'abord en CDD. J'ai entendu en venant à la radio. Ça devrait changer. C'est injuste et c'est déqualifiant. Et finalement, ça n'apporte pas, y compris aux entreprises et à l'investissement des salariés dans leur entreprise, une reconnaissance. Et ça n'encourage pas, en fait, au travail. Or, pourtant, c'est ça qu'il faut faire.
Oui, on en revient quand même à la confiance, si je puis me permettre. C'est-à-dire que si on n'a pas de visibilité, l'emploi ne se décrète pas, l'économie ne se décrète pas, donc on espère tous effectivement qu'elle soit positive et qu'on ait un taux de croissance suffisant pour un retour à l'emploi correct dans ce pays. Il n'empêche quand même qu'on peut très bien faire face, vous l'avez dit, et c'était mon idée de tout à l'heure, sur les acteurs offensifs, sur les accords offensifs, faire face à un surcroît d'activité. On va donc effectivement pas forcément trouver dans son bassin d'emploi les formations tout de suite adéquates. Il le faudrait, c'est vrai. Il y a déjà un gros effort sur ce plan-là. Mais en tous les cas, si on ne trouve pas, on va demander aux collaborateurs en place de faire un peu plus, quelques efforts momentanés, avec un maintien effectivement des rémunérations. Et il se peut très bien que malheureusement, quelques années après, quelques mois après, peut-être même en allant plus vite dans le scénario, l'activité baisse et qu'il faille faire effectivement face à un réajustement de la masse salariale, tout simplement. On ne peut pas, mettez-vous à la place de l'employeur, garder des effectifs quand les carnets de commandes ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a une adaptation, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité, une adaptation de l'emploi et des effectifs, compte tenu qu'on doit pouvoir démontrer, et la loi le proposer, bien sûr, comment est-ce qu'on est confronté à des baisses d'activité, comment on peut le démontrer par des baisses de chiffre d'affaires sur 2 ou 3 trimestres consécutifs, en introduisant, alors là on n'est pas trop d'accord, des effets de seuil pour les petites, les moyennes et les grandes, on apprécierait sur une durée plus longue, bien sûr, la baisse d'activité. Mais on doit pouvoir démontrer, bon sang, on est face à une situation négative de chiffre d'affaires. On doit pouvoir dire aux salariés, il y a une situation qui s'impose à nous. Il faut qu'on ajuste effectivement les effectifs par des licenciements économiques. De toute manière, cette mesure doit s'accompagner avec des formations effectivement des demandeurs d'emploi qui vont se retrouver en situation de préparer un nouvel emploi, bien sûr. Et c'est un ensemble de sujets qui sont à la fois de faciliter l'ajustement de la masse salariale au chiffre d'affaires des entreprises et en même temps d'avoir des ressorts supplémentaires sur la formation des demandeurs d'emploi qui vont forcément se retrouver à un moment donné.
Au bout du compte, dans tous les cas, il y a allongement du temps de travail et baisse du salaire. Et voyez-vous, dans votre système. Et donc, c'est ça, je crois, ce que les salariés et les citoyens...
Il y a moins de cotisations sociales pour la formation professionnelle, etc. Alors, on peut toujours parler de formation quand, en même temps, on ne veut pas abonder dans les caisses diverses et qu'on réclame à cœur et à cri des allègements de charges pour baisser le coût du travail. Le travail, ce n'est pas un coût, c'est une richesse, M. Paris.
D'accord.
Donc, cette sémantique-là, il faut en changer. C'est une sémantique tout à fait agressive en direction des salariés. Le travail, c'est une richesse. C'est les gens qui ont travaillé, qui ont créé toutes les richesses dont on bénéficie aujourd'hui, y compris dans ce studio.
Bien sûr.
Donc, si vous voulez, il y a quand même eu... Enfin, il ne faut pas oublier quand même que les gains de productivité des entreprises grâce à la modernisation, à la robotique, etc., par, je serais tenté de dire, comme un bon syndicaliste, par tête de pipe, ils ont quand même été assez exponentiels ces 20 dernières années. Donc il faut discuter du fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de bénéfices de grandes entreprises, même s'il y a de l'évasion fiscale, etc., dont on sait qu'ils sont là. Dont on sait qu'ils sont là. Voilà.
En tous les cas, je peux vous dire que ce n'est pas une loi du travail, c'est une loi pour l'emploi. Il faudrait déjà commencer par le dire de cette manière-là.
Non, ce n'est pas une loi pour l'emploi.
En tous les cas, sur le sujet que vous évoquiez, il me semble qu'il y a des signaux déjà extérieurs de ceux qui délocalisent, qui voudraient bien relocaliser en France si le marché de l'emploi était plus...
Mais pour délocaliser, il faut avoir de l'argent.
Attendez, on va laisser finir M. Paris, ensuite vous interrompez.
Et également des investisseurs internationaux qui voudraient bien davantage s'installer en France parce qu'ils y trouveraient un terreau plus favorable et un marché du travail plus flexible, plus souple, ouais, qui leur permettrait de développer leurs activités.
Ils vont au Pakistan dans ces
cas-là. Voilà. Donc il n'y a pas photo. Ils choisissent effectivement, vous l'avez dit, des pays...
Il faut travailler comme les Pakistanais.
Non, mais il faut travailler dans des situations, bien sûr,
pour être concurrentiel.
Peut-être plus honorable, mais en tous les cas, dans un pays qui a toute la force et l'intelligence pour le faire.
Je ne sais pas si c'est honorable que des entreprises délocalisent dans des pays où, effectivement, le droit de travail n'existe plus, où des entreprises françaises n'hésitent pas à faire travailler des enfants 10 ou 12 heures par jour, voilà. Comme c'était le cas au 19e siècle.
Mais bien sûr, mais on a évolué tous dans nos pays, y compris chez nous, bien sûr. En tous les cas, on fait tout dans cette, il me semble, dans cette loi
ça, hein.
Pour faire revenir en France des investisseurs et, au contraire, avoir du boulot pour tout le monde.
C'est bien que vous défendiez la loi, mais la logique que vous dites, baisser le coût du travail en France pour relancer l'emploi en France, hein, par effet de compétitivité par rapport à l'Allemagne ou l'Angleterre. Si on baisse en France le coût du travail, assez logiquement, dans la même logique, les autres pays qui ne sont pas plus bêtes que nous, l'Allemagne, l'Angleterre, autres, vont faire pareil. Donc on se retrouve dans une espèce de course à la baisse des qualifications, enfin à la baisse du coût, enfin à la baisse des salaires, à l'augmentation du temps de travail, et on ne gagne pas plus en emploi.
Parce
que depuis des années, en fait, j'ai toujours entendu dire, les salariés ont toujours entendu dire, il faut baisser le coût du travail. Et pour créer de l'emploi. Et en fait, il y a, je crois, au budget de l'État, c'est colossal, en fait. Hein, c'est de l'ordre de plus de 100 milliards, exemptions. On n'a pas d'emploi en face, ni d'augmentation de formation. C'est aussi ça, le constat que font les salariés. C'est pour ça qu'on veut obtenir d'autres droits et vraiment une politique de relance qui passe aussi... parce que pour que les entreprises aient un marché, il faut aussi que des gens consomment et puissent acheter.
Alors,
il faut aussi qu'on relance aussi la consommation intérieure.
Alors juste, excuse-moi, oui, pour répondre juste à l'instant, rapidement, deux sujets. La TVA sociale, c'est quand même une proposition que d'autres que nous ont relayée. On l'a dit à demi-mot en passant de 19,6 à 20% dernièrement. Un précédent gouvernement devait la lancer en 2012, enfin 2011 plutôt, il l'a abandonné. Il n'empêche quand même que la proposition du MEDEF était bien celle-ci, c'était de baisser effectivement les charges sociales patronales et de redonner du net aux salariés finalement en ne touchant pas, en baissant également à eux, excusez-moi, leur charge salariale, n'est-ce pas, sur la cotisation branche famille notamment. Et on redonnait par un système de double hélice, hein, un cercle vertueux, à la fois de l'oxygène pour les entreprises qui veulent se développer, et en même temps, on redonne du pouvoir d'achat aux salariés. Et ça, ça a été introduit donc d'une manière un peu déguisée par le CICE, effectivement, qui n'a pas débouché sur une démonstration, si vous me permettez, tout à fait magistrale en termes d'emploi, mais par contre, qui a sauvé beaucoup d'entreprises qui leur ont permis de maintenir une activité grâce au CICE et qui, effectivement, de ce fait, ont maintenu dans l'emploi à défaut d'en avoir créé.
Alors, on va revenir à la loi du travail, par contre, maintenant même, s'il vous plaît. Mais au texte même. maintenant, si le texte actuel venait à être mis en vigueur, quels seraient les changements pour les entreprises et pour les salariés? Alors, on va... Vous voulez répondre en premier, monsieur?
Ouais, mais je vais faire une redite. Hein. Je veux vraiment enfoncer le clou sur le renversement de la hiérarchie des normes et l'atomisation du droit du travail. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'égalité de droit dans ce pays. C'est-à-dire en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille, on aura un droit, puis dans une autre, on aura un autre droit. Voilà. C'est ça la loi El Khomri, point barre. C'est la raison pour laquelle Jean-Claude Mailly, hein, dès le 23 février, a dit, je crois que c'était sur BFM Business, hein, ce texte n'est pas amendable, parce que la philosophie du texte même met en question le droit du travail. Donc c'est la raison pour laquelle, en essayant de pourrir le mouvement, c'est-à-dire de profiter des vacances, etc., le gouvernement a tenté, par tout un tas de manœuvres dilatoires, de remise. Bon, personne s'y est trompé. Les organisations étudiantes, en tout cas pas, qu'on présentait comme des organisations manipulées par les organisations des grands frères de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU. Donc, ont su faire la paire des choses tout seuls, puisqu'ils se sont rendus dans le bureau du Premier ministre. Donc, voilà. Donc, le mouvement, il continue. Nous, on est, on pourrait dire, droit dans nos bottes sur le retrait. Il y a une intersyndicale qui s'est réunie, qui appelle au niveau national à une nouvelle grève le 28 de ce mois, le 28 avril, je crois qu'il faut le dire. Le 26, les unions départementales vont organiser CGT, FO, FSU avec l'UNEF et les organisations lycéennes. Une conférence de presse, réunion, on n'a pas encore le lieu, je suis navré, j'aurais bien aimé avoir, mais probablement au centre de vie du Sanitas, le soir, un forum, débat sur justement la loi du travail, donc on pourra en dire un peu plus long. Donc voilà, donc les choses, elles continuent, on verra au soir du 28 ce que dit le gouvernement et on verra où on en sera.
Très
voilà,
bien.
On est déterminés.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette dernière intervention ou alors c'est pas la peine?
Oui, c'est sur la mobilisation. Moi, je préférerais, en écoutant mes contradicteurs là autour de cette table, c'est qu'ils se prononcent plus souvent, c'est-à-dire ne pas attendre les grands soirs attendus d'une réforme du code de travail pour se battre effectivement contre le chômage. Parce que j'ai l'impression que finalement, beaucoup d'émoi et une tempête dans un verre d'eau, si effectivement cette loi est votée dans les versions 2, 3, 4, etc., on va en sortir effectivement pas grandi les uns et les autres. Mais il faudrait plus souvent, messieurs, vous manifester de telle manière que vous trouviez vous aussi les bonnes solutions et que vous poussiez le gouvernement à agir comme d'autres pays l'ont fait pour combattre le chômage. Moi, je vous entends effectivement que dans les grandes occasions comme celle-ci, c'est très bien. Mais vous ne faites pas assez souvent ce boulot-là.
Mais on peut vous dire chiche, monsieur. Le CICE, dites-nous par exemple, peut-être pas le milliard, mais dans notre département, les dizaines de millions qui ont servi à abaisser les charges, elles ont profité à Carrefour, elles ont profité à tout un tas d'entreprises, peut-être toutes, au moins du moins toutes celles qui ont déclaré.
Les salariés qui ont payé.
Et il n'y a pas eu d'emploi de créer. Et même dans notre département, le chômage a eu encore une baisse plus forte ces derniers temps. Donc je crois que c'est un peu facile de porter la responsabilité. Nos organisations syndicales et nos syndiqués se battent souvent pour préserver l'emploi, pour leur rémunération. Mmh. Et il suffit de voir l'actualité, en fait, hein, dans notre département comme ailleurs, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans tous les secteurs. Il y a des difficultés et il y a des mobilisations. Ce n'est pas que d'un jour. Mais c'est vrai que le 28 avril, on sera à 14h30 place de la Liberté à Tours pour manifester, pour obtenir en fait pas simplement effectivement le retrait de cette loi qu'on demande, parce qu'on voit bien que, comment dire, c'est pas, ça peut pas déboucher sur de bien, mais qui est en plus de vraies discussions. Cette loi, vous l'avez dit en tout début dans les chroniques, on a découvert son contenu parce qu'il était présenté au Conseil d'État. Logiquement, une loi sur l'emploi, le travail, il vaudrait mieux que ce soit d'abord un peu un débat public plutôt que 140 articles extrêmement divers et qui, au bout du compte, on voit bien, créent du trouble et ne répondent pas aux besoins de l'emploi.
Il y a l'article premier du Code du travail, hein, pour ce qui concerne. C'est-à-dire que là, on considère à Force ouvrière que le gouvernement n'a pas respecté ce premier article pour ce qui concerne l'application, enfin la présentation de ce projet. Bon, ça, on en reparlera. Enfin, je pense que Force ouvrière fera ce qu'elle a à faire au niveau des juridictions pour faire valoir le droit. Mais bon, voilà.
Alors, on finit avec une toute dernière question de Virginie, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
J'ai une petite dernière question. Si demain vous deviez écrire une loi travail, vous mettriez quoi dedans, en quelques phrases, hein. Vos priorités.
Ah, vous savez, on n'est pas docteur miracle non plus. Mais il y a une chose, je crois, qui est certaine pour que l'emploi se développe. Il faut faire le pari des qualifications et il faut quelque part prendre des dispositions, je ne sais pas s'il faut dire keynésien ou autre, mais pour que l'économie se relance, en fait. Et qu'en même temps, on qualifie et que du coup, on réponde aux besoins des jeunes. Parce que ça crée de l'espoir, quoi, en fait. C'est ce qui est le plus important. Après, évidemment que le code du travail, c'est comme le code de l'éducation, comme les codes de jurisprudence, c'est des choses extrêmement compliquées. Mais là, c'est en fait un bouleversement du code et qui va à l'encontre de la création d'emplois.
D'accord. Eh bien, merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents ce soir. C'est la fin de notre émission.
Merci également.
Et des glaneuses pour ce soir. On se retrouve dans 2 semaines pour un sujet, on ne sait pas encore lequel. Donc, on va remercier nos 2 chroniqueurs qui ont été là ce soir, Marion.
Mais de rien.
Merci.
Et puis on remercie aussi Virgile d'avoir été présent et nous avoir éclairci un peu plus sur ce projet de loi.
Mais merci à vous, très bonne soirée.
On remercie aussi Jean-Dominique Audebert, secrétaire de la Force ouvrière 37. Et on remercie aussi Monsieur Claude Paris, président du MEDEF Centre.
Merci.
Ainsi que Gilles Moindreau, secrétaire à la Fédération syndicale unitaire 37.
Merci.
Et quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 2 semaines sur les mêmes ondes, 99.5 FM. Passez une bonne soirée sur Campus Tours.